Vous écoutez
RMC.
C'est la façon dont on a joué ce match-là, j'ai pas aimé, manque d'impuissance.
Ça m'arrive de le regarder, ça m'arrive d'aller au Parc Saint-Germain.
Tous les matchs, pour moi, c'est particulier, c'est-à-dire qu'il y a chaque vérité à son match.
Jusqu'à minuit,
c'est l'After Foot, Gilbert Bribois.
Bonsoir à tous, l'After est là jusqu'à minuit. L'After, l'émission qui dit tout ce que le monde du football pense tout bas sur RMC, à la radio, sur RMC Sport News, à la télé, bien sûr, avec notre équipe du jeudi soir pour 3 heures d'After. Daniel Riolo est là. Daniel, bonsoir.
Bonsoir les amis.
Jérôme Bretagne est là également, évidemment. Salut Jérôme.
Bonsoir à tous.
Et ce soir, Damien Périnel est avec nous. Damien, bonsoir.
Et bonsoir tout le monde.
Tout à l'heure, Julien Cazard à 23h, bien sûr. Plusieurs événements ce soir dans l'After. D'abord, la situation du PSG après sa défaite de mardi soir à Dortmund. Tourelle est-il encore l'homme de la situation ? Daniel s'est positionné hier, évidemment, Damien et Jérôme, on attend votre avis dans quelques instants. Et puis on va vous raconter également la suite du PSG Comedy Club qui a démarré mardi soir et qui n'est pas fini. À 22h, débat autour du modèle de gouvernance du football français. Faut-il changer pour développer la Ligue 1 ? L'économiste Jean-Pascal Gaillan sera avec nous. Il a écrit une longue tribune dans Le Monde sur le sujet. Ce sera donc très intéressant tout à l'heure à 22h. Bruno Derrien passera également nous voir, notre arbitre RMC Sport. Il nous dira ce qu'il pense des propositions d'Arsène Wenger sur le VAR. Et puis Fred Herbel sera là à 23h. Vous saurez tous des nombreux messages envoyés par Messi dans son interview au Mundo Deportivo. Il a parlé de Griezmann notamment. Et puis l'incroyable transfert de Braithwaite au Barça, la clause de 300 millions, les 80 000 de contrat. Comment est-ce possible? Fred Herbel va tout vous raconter.
Quoi, inattendu.
De la magie du football.
C'est ça.
Au bout d'un moment.
Comme dirait Laurent Blanc.
Pourquoi pas moi?
Football en particulier.
Ah ouais, c'est vrai.
Oui, pourquoi pas moi?
Bien signé à Boulogne-sur-Mer. Hein.
Alors que je méritais nettement mieux.
Bah, exactement.
Il n'avait pas une clause de 300 millions.
Après Clermont.
L'actu du jour également, la chronique de Julien Cazard à 23h30. Max qui passera nous voir, notre chef du standard. Et puis le quiz à 23h40. Inscrivez-vous au 32-16 dès maintenant. Si vous voulez participer, le 32-16 ouvert toute la soirée, bien sûr, le hashtag RMC Live sur Twitter, Direct Studio sur nos applis gratuites RMC et RMC Sport. Et l'Europa League, les gars, 16e de finale. Allez, ce soir, Arnaud Valadon suit la soirée. Arnaud, bonsoir.
Gilbert, bonsoir à tous, c'est parti pour les 8 matchs qui ont débuté à 21h. On aura un œil sur Olympiakos Arsenal, 0-0 partout, hein. Valbuena est titulaire, il va même prolonger son contrat, annonce de Christian Carambeu tout à l'heure. Lacazette, Aubameyang titulaire à Arsenal. On jettera aussi un coup d'œil du côté de Leverkusen Porto avec Moussa Marega qui est titulaire du côté de Porto quelques jours après avoir subi des cris racistes dans un stade au Portugal, 0-0 sur toutes les pelouses.
Alors il y avait également des matchs tout à l'heure en fin d'après-midi, je vous donne les principaux résultats. Manchester United a fait un partout à Bruges. Francfort, les Allemands brillent, Francfort a gagné face à Salzbourg 4-1. Le Celtic a fait un partout à Copenhague. Retafe, qui est à la mode en Espagne, qui marche bien, a battu l'Ajax de Kevin Diaz 2-0. L'Inter est allé gagner à Razgrad face à Ludogorets en Bulgarie 2-0. Le Shakhtar bat Benfica 2-1. Le Sporting bat Başakşehir, le club d'Istanbul 3-1. Et Séville est allé faire un partout à Cluj. Voilà. Bon, en réalité, il n'y a pas que les clubs français qui n'arrivent pas à battre les Roumains. Il y a aussi Séville. On fait comme ça de se qualifier au final.
Un match nul à l'extérieur.
Exactement.
Dramatique.
Voilà. On suit l'Europa League. Arnaud nous prévient, bien sûr, dès qu'il se passe quelque chose. Attention, on a démarré notre feuilleton PSG Comedy Club hier. Il continue aujourd'hui. Hein. Allez, c'est parti. Musique. Et oui, alors hier, on en était resté à Meunier, qui n'était pas au courant du carton jaune. Qu'est-ce qu'on avait encore? Neymar, qui n'était pas content parce qu'il voulait jouer alors qu'on lui a dit tu peux pas jouer, alors qu'en fait, le coach était d'accord, mais pas Leonardo. Bref, qu'est-ce qu'on avait encore hier dans le PSG Comedy Club? Frère de Kimpembe, évidemment. Aujourd'hui, ça continue et ça vient d'Espagne. Messi, il arrive et il dit hop, Neymar veut revenir. Ah voilà, donc on en parlera avec Fred Hermel en longueur tout à l'heure. Et puis, nouvel épisode du PSG Comedy Club aujourd'hui. Oh, Nasser El-Khelaifi inculpé en Suisse, dites donc. Voilà, donc ça continue.
Ça tombe bien.
Ça tombe bien, exactement.
La question que je me pose, c'est qui connaît Benny, à part nous?
À part nous, les quarantenaires? Damien est plus jeune.
Pas dans votre club, mais je connais Benny quand même.
Mais comment? T'étais jeune, comment Benny? Dimanche soir, t'avais quel âge?
FR3.
Bah, ça va, Damien,
t'as
36.
Ouais, 36, tu peux pas connaître Denis, là, 36.
C'est limite.
Bien sûr, quand même.
Alors, attention, test ultime. Sarah Griffon est avec nous pour nous parler de Nasser El-Khelaifi.
Tu sais que tu connais
Sarah, est-ce que tu connais Benil?
Absolument pas.
Ah oui, c'est impossible, comment tu le connais?
Ah mince, ça c'est le choc.
Mais déjà, t'as pas connu FR3. T'as connu que France
non,
Télé.
Non, ouais, j'ai connu que France Télé. Ah ouais,
déjà. Sarah, elle a 35 ans, je comprends pas.
Est-ce que d'après la musique, tu te dis ça devait être drôle?
Je ne connaissais pas, mais je connais la musique par contre.
Ah. Ouais, ça la musique pensé... indique que c'était un peu drôle.
Ouais, voilà.
C'est vrai que ça allait.
C'était pas toujours drôle non plus. Hein. C'était un peu. C'était parfois un peu lourdeau, Béni.
Le générique était drôle.
Jamais lourdeau.
Le mieux, c'était la musique et le générique.
Non.
Bah aussi.
Mais non, c'est parce que justement, t'étais petit, tu comprenais pas les subtilités.
Attention, surtout que dans l'after, Béni, il se conclut comme ça. Voilà, c'était Neymar, bien sûr. Alors, il faut. Enfin, Sarah, tu es là parce que tu veux nous expliquer ce qui s'est passé aujourd'hui pour Nasser Al-Khelaifi, parce qu'il faut décrypter tout ça, parce qu'on entend Nasser Al-Khelaifi inculpé. Enfin, ça ne se résume pas uniquement à ça. Il faut expliquer le pourquoi du comment.
On va rappeler d'où commence cette histoire tout d'abord. Ça commence en mars 2017, il y a 3 ans. Une enquête est ouverte en Suisse pour soupçon de corruption, escroquerie, gestion des loyers de faux et des titres à l'encontre de Jérôme Valk, l'ancien numéro 2 de la FIFA. Il lui est reproché à Jérôme Valk d'avoir accepté des avantages en lien avec l'octroi de droits télé dans certains pays concernant les Coupes du Monde de football de 2018 à 2030 et de la part de Nasser Al-Khelaifi aussi concernant les Coupes du Monde 2026 et 2030. À ce moment-là, Nasser Al-Khelaifi n'est pas inquiété par la justice suisse. Ce n'est que 7 mois plus tard que la justice se penche sur son cas. Le patron de beIN Media et du PSG est donc soupçonné de corruption dans le cadre de l'octroi des droits télé pour les différentes Coupes du Monde. Après 3 ans d'enquête, donc, rebondissement aujourd'hui, Nasser Al-Khelaifi voit ses chefs d'accusation se réduire. Il n'est alors plus accusé de corruption, mais d'instigation à la gestion déloyale. Pourquoi ? Eh bien, tout simplement parce que la FIFA a retiré sa plainte à l'encontre de Monsieur Al-Khelaifi. Et en Suisse, il n'y a pas de plainte, il n'y a pas de poursuite. Il est donc accusé sous enquête d'une enquête suisse, pour instigation à gestion déloyale. Qu'est-ce que ça veut dire ? Eh bien, la justice lui reproche d'avoir mis gracieusement à la disposition de Monsieur Valk une luxueuse villa en Sardaigne pendant plusieurs mois, 18 mois exactement. Nous avons contacté l'avocat.
18 mois la villa ?
Tout, oui.
Ah, c'était pas juste pour l'été ?
Bah, il a invité son copain.
Je pensais que c'était juste qu'il lui avait prêté la villa pour le mois d'août.
Mais bon, 18 mois en Sardaigne quand même, bon, ça coûte un peu quand même.
18 mois en Sardaigne.
Après, la Sardaigne en janvier, c'est pas non plus.
On parle quand même de millions d'euros de loyer.
Non, mais que la villa soit somptueuse, certes, mais je pensais qu'il lui avait prêté pour le mois d'août. Pour 18 mois, ça sert à quoi ? Bizarre cette histoire. Tu devrais enquêter sur le pourquoi les 18 mois.
Déjà, t'as tout dit, Sarah ?
Je vais vous dire ce que nous a répondu son avocat.
Ah oui, l'avocat de Nasser Al-Khelaifi, s'il vous plaît, les gars.
Et donc, l'avocat de M. Al-Khelaifi, Grégoire Mangea, évidemment, réjouit de cette nouvelle. Le plus important, c'est que toutes les accusations de corruption privée relatives à l'octroi des droits médias ont été abandonnées. Notre client n'est plus accusé que d'une seule et unique infraction. Elle manque de sérieux. Elle n'a été mentionnée pour la première fois que le 2 décembre dernier. Elle n'a pas été inscrite à l'ordre du jour et notre client n'a jamais pu s'exprimer à son sujet. Nous sommes confiants et plaiderons l'acquittement plein et entier de notre client.
Alors, deux choses pour te compléter tout ce que tu dis. Donc, un, vous avez bien compris que cette histoire n'a rien à voir avec le PSG, hein, que c'est une histoire de droit télé, d'acquisition de droit télé pour beIN.
Enfin, c'est très simple. Hein.
Et deux, non mais quand même, c'est important, la FIFA a retiré sa plainte pour corruption suite à un accord amiable. En général, quand on dit suite à un accord amiable...
Tout le monde est content.
C'est qu'il y a eu un petit échange, petit arrangement.
De toute façon, la FIFA, ils fonctionnaient comme ça pour attribuer quoi que ce soit à toutes les coupes du monde.
Ça a pas changé,
donc les droits télé, c'est pareil. Je te file les droits télé. En revanche, si tu peux me laisser une enveloppe à côté. Bon, là, au lieu de l'enveloppe, bon, peut-être qu'il y a eu l'enveloppe, j'en sais rien. Mais il y a également le prêt de la villa. Bon,
donc en gros, il risquait avec la corruption, il risquait lourd.
La mallette était au fond de la piscine.
Il risquait beaucoup
plus léger, à mon avis. Ah oui, mais là, à l'arrivée, ça va même se terminer. Un non-lieu, cette affaire.
Juste avec un plongeon, tu récupères la mallette, elle était au fond de la piscine.
Franchement, ça aura 5 minutes de description pour l'arrivée à un non-lieu. Tu reviendras quand tu auras le non-lieu ou pas ?
Tout à fait, je vous dirai tout ça.
On t'attend alors.
Bon, en tout cas, merci Sarah de nous avoir expliqué tout ça en détail.
On n'a pas les photos de la villa ?
J'ai cherché sur internet et j'en ai pas trouvé. Donc,
t'as pas trouvé celle-là ?
La villa Bianca. Ah. J'ai cherché, j'ai pas trouvé. Bien vu,
non, ça doit être un peu caché cette villa.
Je pense.
Ça doit pas être une villa où Jérôme Bretagne va en vacances.
La seule que j'ai trouvée, c'était un Airbnb.
Non, moi, je peux l'avoir.
Pas ça, Jérôme. Je pense à ce niveau-là, tu t'assures pas.
Villa Bianca,
En revanche, Airbnb, c'est là où Jérôme ne va pas.
Je m'en tiens pas.
Moi, je pense que cet été, il va y avoir un film d'un joueur pro en vacances, tu sais, avec les drones, tout ça, des montages dans la villa, je pense.
Époque joueur, peut-être t'aurais demandé le prêt, on te l'aurait donné. Mais là, aujourd'hui, on te la prête plus. T'as plus de niveau.
C'est peut-être pas fou.
Époque joueur, tu pouvais demander ce genre de choses.
Alors, il y a quand même un truc extraordinaire, les gars. C'est quelle capacité a ce club à finalement se créer des problèmes tout seul ou directement, enfin tu vois, ça lui rejaillit dessus, enfin c'est quand même terrible. Là c'est la semaine, t'as l'impression qu'il n'y a pas un jour sans qu'il y a un truc nouveau qui leur tombe sur le coin de la tronche.
Le vrai problème c'est le club, la gestion du club, les joueurs, les résultats. Cette histoire là elle traîne depuis longtemps, on a bien compris ce qui s'est passé, on sait très bien comment ça va se terminer, ça me semble pas relever d'une extrême gravité. En revanche, se mettre dans les difficultés annuellement au même moment pour la gestion du groupe, du vestiaire, de l'entraîneur, du pouvoir donné aux uns aux autres, alors qu'on pensait qu'avec l'arrivée de Leonardo, ça allait être tenu, bah non, rien n'est tenu une nouvelle fois. Mais le coupable, il faudra peut-être un jour, enfin on l'a souvent dit, mais il y a un chef, alors qui est de plus en plus absent, dont on vient de parler pour une autre affaire, mais c'est quand même Nasser.
Il est
nulle part. Ouais, oui, évidemment qu'il était à Dortmund, il manquerait plus que ça.
On l'a plus entendu depuis une éternité.
Est-ce qu'à un moment, à chaque fois qu'il y a des problèmes en Ligue des Champions et qu'on parle de tout ce qu'il y a autour, de cette peur, de la mauvaise gestion, des joueurs qui font ce qu'ils veulent, du manque d'autorité, ok, t'as fait revenir Leonardo, mais est-ce qu'à un moment on dira quand même que lui aussi doit être responsable de quelque chose?
Ouais, mais Daniel...
Alors lui à vie il va être protégé parce que c'était le prof, le prof de tennis et l'ami du prince, mais bon, à un moment le prof de tennis il a qu'à retourner donner des cours de tennis,
en fait,
quoi.
C'est ce qu'il a mis en place. C'est le problème, c'est que quand ils sont arrivés, il faut remonter il y a quelques années.
En 2011, mais peut-être c'est pas la bonne personne aussi, Nasser.
En 2011, il est arrivé avec plein de bonnes idées, avec surtout un gros carnet de chèques. Ils ont réussi, et c'est ce qu'il fallait au Paris Saint-Germain, de toute façon, injecter beaucoup d'argent pour construire une belle équipe, une très belle équipe. Et les résultats sont vite arrivés, mais ils sont arrivés par le biais avant tout d'un apport financier conséquent. Et que.
Et de bonnes idées. Leonardo Ancelotti, c'est une super idée pour commencer l'histoire.
Sauf que je pense qu'il y a encore des joueurs qui sont là. Et on le dit souvent, hein, qui ont vécu les désillusions, mais qui ont vécu aussi des renouvellements de contrats.
Parce qu'on les a trop arrosés.
Exactement. Et je pense que là, les limites du système du président, de Nasser, c'est ça. C'est tu les as arrosés, tu les as mis dans un confort. Et aujourd'hui, ce confort, on est obligé de constater.
Mais au-delà du confort, tu peux être dans le confort. Mais tu peux les mettre dans le, tu peux leur donner de l'argent, les mettre dans le confort. C'est quand même toi le boss et t'as le droit d'élever la voix de temps en temps quand même.
Mais qu'est-ce que tu veux qu'il ait
T'as le droit aussi de leur dire la prolongation, comme a fait d'ailleurs Leonardo pour Thiago Silva. La prolongation, on va attendre un peu de voir ce qui se passe un peu quelque chose. Chose de bien pour une fois. Aujourd'hui, t'es pas obligé sans arrêt de leur signer des prolongations en permanence.
Aujourd'hui, mais Leonardo pour ça. C'est-à-dire qu'il a été en avant-poste pendant très longtemps. À chaque fois qu'il parlait, c'est limite tout le monde rigolait par rapport à son discours. On comprenait pas très bien ce qu'il disait. Et puis, il divaguait sur sportif. Quoi. Il avait pas de crédibilité en soi, même au yeux des médias, auprès de tout le monde. Alors,
tu veux qu'il hausse le ton par rapport aux joueurs?
Mais par rapport aux joueurs. Il s'est instauré, en fait, dans une relation avec les joueurs.
Ouais,
c'est vrai qu'au bout d'un moment, le joueur va pas comprendre si demain il hausse le ton. Alors c'était censé être le cas au bout d'un moment.
Et c'est pour ça. Et bon, je sais pas si t'as connu des présidents comme ça, mais je pense que au premier
arrêt. Regarde quoi, Vatez à Boulogne.
Tiens, il y a l'extrait.
Vatez, tu faisais un mauvais match, il te faisait aller à
marcher
au poisson à 5h du mat, tu bougeais le cul.
Tu savais, t'as un comportement d'un président, il est comme ça avec toi, alors qu'il soit très dans l'affectif comme l'est Nasser avec certains joueurs. Ou très rude, qui laisse rien passer, ça peut arriver. Nasser, elle a décidé d'aller dans l'affectif. Le problème, c'est que tu peux pas changer ton fusil d'épaule. Les joueurs qui sont là depuis 6 ans, 7 ans, comment tu veux qu'ils comprennent aujourd'hui qu'il les a rincés à limite, il les embrasse sur la bouche tous les matins et que d'un seul coup, il va leur dire ah, là, c'est pas normal, les gars, ça, hey, reste à ta place. Et ils vont leur dire reste à ta place, moi j'ai le contrat. Il y a l'entraîneur, il y a un directeur sportif aujourd'hui qui était totalement absent avant que Leonardo revienne. Donc, c'est assez à ces gens-là qu'ils remettent en place.
Tous les présidents que tu as connus, est-ce que toi, t'en as senti, comment dire, t'as eu des présidents où tu t'es dit, vaut mieux pas que je déconne, ou celui-là me met un petit peu trop dans le confort, ou t'as senti une autorité qui était différente, qui était supérieure à celle du coach, et dont tu pouvais te méfier? Parce que t'en as connu un paquet, toi,
déjà rien qu'à Paris, j'en ai connu beaucoup, mais après des présidents charismatiques, l'exemple de Campora à Monaco. Je veux dire, Campora, il pouvait être, en effet, il aimait ses joueurs, il aimait le club plus que tout, mais tu savais qu'il y avait une barrière, tu pouvais pas passer, quoi. Il y avait une frontière, il te le faisait comprendre très justement. Et je pense que ça, c'est important d'avoir cette relation-là avec les joueurs. Les joueurs, il y a des limites. Et quand tu déconnes avec le maillot du club, eh ben tu sais que tu peux te prendre une bonne soufflante et que le président il va pas rigoler et que c'est pas que l'aspect financier, les amendes, les ceci, les cela. Ça peut être bien au-delà. Et pourtant, moi, je suis un joueur qui avait besoin d'affection, qui avait besoin d'affection. Il y a plein de personnalités dans le vestiaire. T'en as, Damien. Ils s'en foutent d'être assez proche du président ou même proche de l'entraîneur, que l'entraîneur.
T'avais besoin qu'on vienne te faire des câlins tous les matins.
Oui, j'avais besoin de ça, mais à la fois, j'avais aussi besoin d'avoir une certaine distance avec des personnes fortes, les personnes à la tête du club. Et je pense qu'aujourd'hui, en effet, avec
quoi que tu estimais un peu patron, t'avais besoin de sentir une forme d'autorité supérieure.
Mais oui. Mais je pense que et c'est pas que moi, c'est l'ensemble d'un groupe. Même aujourd'hui, alors il y a des stars planétaires, hein, Neymar, Mbappé. Ok, pas de problème.
Non, mais ce que tu dis, ça m'intéresse. C'est pour ça que je te pose la question, parce que j'imagine moi que au Real. Les mecs doivent sentir que Florentino Pérez, c'est le patron.
Mais
c'est
d'ailleurs, tu vois,
et que
tu vois
peut-être qu'au Barça aujourd'hui, ça.
Tu vois l'interview de Benzema, quand Pérez qui apparaît à l'écran sur ce qui s'est passé durant le reportage de Benzema, il dit le patron, le boss, tout de suite, tu vois, il s'est identifié.
Ouais, bien sûr.
Après, sur le président du PSG, Nasser Al-Khelaifi, c'est une question de personnalité. Et au bout d'un moment, je pense qu'il n'y a rien de pire que pour quelqu'un qui foncièrement n'a pas un caractère à rentrer dans les gens, ainsi de suite, de surjouer et du jour au lendemain de devenir méchant, agressif. Et je trouve que ça décrédibilise encore plus à la limite
en fait,
Nasser, le personnage.
Nasser s'est planté. Moi, je lui en veux pas d'être comme ça parce qu'il est comme ça. Mais il s'est planté le jour où Leonardo est parti et qu'il s'est retrouvé scellé parce que Kluivert c'était un mauvais choix, parce que Antero Henrique c'était un mauvais choix et eux faisaient pas le lien avec le sportif. Moi, ils avaient beaucoup de mal et lui a pris le devant. T'avais l'impression
Kluivert, tout le monde a oublié qu'il est passé.
Non mais. Oui,
il n'a rien fait avec le.
Oui, c'est la réalité. Aujourd'hui, Daniel, je vais te dire, si les joueurs ont un problème, pas avec l'entraîneur, même avec l'entraîneur, mais qui veulent en parler à quelqu'un
aujourd'hui,
d'autre.
Aujourd'hui, c'est avec Leonardo.
Ils parlent avec Leonardo, ils ne parlent plus avec le président.
Oui, sauf quand t'as un mec comme Neymar, c'est absolument ingérable. Et Neymar, il peut décider lui tout seul parce que. Il estime qu'il est plus important que le PSG. Il peut décider que Leonardo est pas un mec qu'il va respecter. Et Neymar aujourd'hui ne respecte pas Leonardo.
Mais d'accord, non mais
donc
ça...
c'est un problème.
Mais non, le problème. Le problème,
au Barça aujourd'hui, Messi il va respecter qui au Barça?
Le problème, c'est que Messi à la limite, il respecte partout, personne vu tout ce qu'il a fait gagner au club.
Non mais.
Tu vois,
sur
il n'y a pas de respect de l'autorité.
Non mais
Messi,
il incarne le Barça. Avec lui, on sait qu'il y aura pas de trahison, qu'il donnera tout à son club. Avec Neymar, excuse-moi. On est loin de penser que ce gars-là va tout donner pour
mais
le club.
Donc, il y a une institution aujourd'hui que le Barça.
Messi, ça me gêne.
C'est
encore une fois,
qu'on a fait.
Mais Damien, encore une fois, Messi, ça me gêne pas parce que tu sais que lui, parce qu'il est très lié à Gérard Piquet, qui deviendra un jour président du club, et que ces mecs-là ne trahiront jamais la cause Barça parce qu'il l'incarne, il l'aime, il la représente. Neymar, il s'en fout du PSG. Au mois d'août, il voulait se barrer.
Non, mais là,
il insultait tout le monde, il s'est fait insulter et maintenant il faudrait être à ses pieds.
Donc,
il y a un problème quand même.
C'est qui le chef du sportif dans ces cas-là? Parce que
c'est logiquement Leonardo, sauf que Neymar le respecte pas.
Mais alors s'il le respecte pas,
il faut le virer.
Aujourd'hui, non mais
tu vires le mec qui te respecte pas, tu le vires.
OK, d'accord. Alors il respecte pas Leonardo comme tu le dis, je pense qu'il y a quand même du respect, ne serait-ce que parce que ils sont de la même nationalité, je pense que ça joue quand même dans les relations entre les deux. Comme tu dis, c'est possible qu'il en a rien à faire. Que Leonardo vienne lui rappeler certains devoirs, peut-être que. Mais après, t'as l'entraîneur et tu t'en as parlé hier, Daniel. T'as l'entraîneur. Eh ben, je suis désolé. Tout Neymar qu'il est, quand Neymar il est pas dans le bon état d'esprit, ça arrive pas souvent ces derniers temps. Malheureusement, c'est arrivé à Dortmund. Mais qu'est-ce que tu laisses sur le terrain? Qu'est-ce que tu laisses? Quel message tu envoies à tes joueurs? Ça veut dire que toi, t'as peur en fait. T'as peur. Tu laisses, c'est ta star. Mbappé a fait une crise en sortant.
Bien sûr.
Voilà. C'est les deux stars. Moi, je veux pas les vexer, donc je les laisse sur le terrain. Et ça, c'est problématique. C'est ouais, plus problématique que la relation entre
les problèmes vont pas s'arrêter parce que Vanda
Daniel,
a commencé.
S'il te plaît.
Et avec Icardi, ça va s'enchaîner.
Ah oui, ça va continuer.
Vanda
est
démarré là.
On a l'extrait exclusif de Nasser Al-Khelaifi qui a chopé Mbappé après son match tout pourri mardi soir dans le vestiaire du Borussia Dortmund. Écoutez.
Il va falloir qu'il bosse. Je suis bien content là. Philippe, il attend qu'on convoquer demain matin à 8h. Et encore, il est gentil parce que moi, ça serait demain matin à 6h. C'est honteux ce que j'ai vu. Je me réserve parce que je vais exploser.
Ouais, et évidemment, ça c'était Vatel, le président de Damien.
Et on n'avait pas les salaires, un douzième du salaire de Neymar.
Et c'est pour ça que les joueurs, bah, ils étaient obligés de faire carpette, parce que franchement, d'un moment, je veux bien. Après, il y a aussi des limites. C'est-à-dire, le président, il doit aussi garder
un contrôle.
Il ait de l'autorité, mais un contrôle. Moi, je sais pas, moi, un président qui vient t'assassiner devant tout le monde dans le vestiaire et tout ça, salaire ou pas salaire, je peux te dire que ça repart aussi vite. Hein.
Ouais, mais ça toi, là, à l'époque, par exemple, sur cet extrait-là, quand il fait ça, Ouaté. Bah, écoute, on baisse la tête, on sait que sur le coup, et derrière, et bah oui, on est quand même allé à la crier le matin à 5h sur le port. Et tout.
Ah, mais vraiment, vous y êtes allé?
Ah, bien sûr qu'on y est allé.
Vous avez fait quoi concrètement?
Vous avez vendu le poisson ou pas?
Non, mais on a visité la capécure à Boulogne, on a vu les bateaux arriver, la crier.
Et là, ils vous ont dit, voilà, c'est ça le vrai boulot.
Et ensuite, à 8h, 8h30, on allait manger au restaurant des pêcheurs, là, le matin, et après, on allait s'entraîner. Mais en fait, tu fais ça dans un groupe. Mais tout le monde est content d'y aller.
Et du coup, t'as mangé quoi, du poisson ? Entrecôte à 8h du matin.
Entrecôte à 8h du matin sur le port de Boulogne.
Eh ouais. Attends, vous allez à la criée, vous mangez de la viande, c'est quoi le problème ?
Ouais, parce que non, mais c'est un classique là-bas, c'est un rituel.
Hein ?
Ah ouais, les pêcheurs, c'est ce qu'ils font à 8h.
Pêcheurs, ils mangent de la viande.
Ouais, c'est
ah, tu vois, ils ont marre, ils voient tellement de poisson. Ils sont dans le poisson sous le nez. Donc
c'est vrai. Merci Sarah, en tout cas, à plus. Dans quelques instants, on est de retour pour parler cette fois de Tourelle. Tourelle est-il changé de la situation?
Parce que les photos de la Villa Bianca, ça se trouve. Hein.
Y a-t-il début en Europa League, Arnaud?
Débute avec la Roma qui a ouvert le score sur son terrain, but de Carlos Pérez pour sa première titularisation. Jordan Vertu est également titulaire. Pastore, lui, est blessé, donc pas là. Wolverhampton mène sur sa pelouse face à l'Espagnol.
Pastore est blessé, tiens, c'est bizarre.
1-0, oui, il y a des problèmes de hanche. Voilà, c'est classique, évidemment. Et la petite surprise, c'est Braga qui mène sur le terrain des Glasgow Rangers 1-0. Et puis Bâle également qui mène 1-0 sur la pelouse de l'Apoel Nicosie. Sinon 0-0 partout, notamment Olympiakos Arsenal.
A tout de suite dans l'After pour parler de Tourelle. Est-il toujours homme de la situation? C'est au programme de l'After dans quelques instants. 32-16, on vous attend. Grégory est déjà là, il patiente.
RMC, 21h30. L'After Foot, Gilbert Bribois.
Damien Périnel est là ce soir, Jérôme Rotten, Daniel Riolo, plus l'Europa League. Arnaud Valadon suit les matchs pour nous dès qu'il se passe un truc, il nous appelle. On va continuer de parler du PSG parce qu'évidemment, 48 heures après la défaite à Dortmund, les débats continuent. D'ailleurs, je précise qu'Allegri était tout à l'heure dans Team Dugas. Je ne sais pas si vous avez écouté, il a parlé foot, sa vision du foot parce qu'il a écrit un bouquin. Donc, il dit voilà, le football, en fait, c'est très simple, il faut le rendre simple. Enfin, c'est un peu son credo général. Et puis surtout.
Après, la gestion des stars.
Oui, il a parlé de la gestion des stars aussi.
Ouais, ça, c'était intéressant, en revanche.
Effectivement.
Oui, ça, c'est sûr. Plus que le football, c'est très simple. C'est pas si simple que ça, le football, quand même.
Bah, lui, il dit, le football, on croit que c'est compliqué, mais en fait, il faut savoir le rendre très simple.
Oui, bah,
voilà. Et il dit, en général, quand t'as des bons joueurs, ça devient toujours très simple.
Ah oui.
Bah, ça dépend quel bon joueur, parce que si le joueur il devient capricieux, Allegri il a bossé à la Juve, et à la Juve et les patrons il y en a au-dessus.
Bah oui.
Tu vois, tu files droit.
Je pense que
quand Allegri il a décidé que Bonucci irait en tribune et que Bonucci a été transféré à Milan pour revenir après, je pense que Allegri c'est pas lui qui a décidé tout ça tout seul. Tu vois.
D'ailleurs il en a parlé dans l'interview de Bonucci.
Il
s'en est séparé une semaine, mais en revanche il a été intelligent. Il était quand même important pour le groupe et pour le vestiaire. Ça veut dire que la semaine d'après, il l'a réintégré dans l'équipe. Il l'a fait jouer parce que il était plus utile sur le terrain que dans la tribune quand même.
Ouais, mais ils l'ont transféré après.
Après, ils l'ont transféré.
Bon, alors, la question qu'on lui a posée.
Il était soutenu par des patrons très très solides. Parce qu'à la Juve, en matière de hiérarchie, c'est solide quand même.
La question qu'on lui a posée concernant le PSG, évidemment, est arrivée sur le tapis. Est-ce que vous seriez prêt à succéder à Tourelle? Et lui, il dit, bah, moi, en tout cas, je suis en vacances jusqu'à la fin de la saison. Après, j'attends les coups de fil.
En cours d'année, quoi.
A dit Allegri. Voilà.
Bah, en cours d'année, pourtant. Hein.
Oui.
Bah justement.
Si tu lui proposes, il va dire ah non, pas maintenant, Léo, laisse-moi tranquille.
Tourelle est-il toujours l'homme de la situation? Voilà. Daniel s'est positionné hier en demandant un départ immédiat de Thomas Tourelle. On va voir ce qu'en pensent Damien et Jérôme. Mais d'abord, Grégory, au 32-16, est là, supporter du PSG. Grégory, bonsoir.
Bonsoir, After.
Salut, Grégory.
Salut, Greg. Salut, alors, Grégory. Tu dis quoi, toi? Est-ce que Tourelle est toujours l'homme de la situation?
Moi, je pense que non. Moi, je le trouve totalement désénergisé. Pour moi, le point de la
ça existe,
hein,
désénergisé?
C'est un barbarisme,
mais qu'il n'a plus d'énergie.
Ça correspond bien à ce qu'il est, le poison de la déception.
T'as raison, Greg, on t'a compris.
Il n'a plus d'énergie. Il est le poison de la déception, il s'est instillé en lui. Il est arrivé avec l'envie d'en découdre et il s'est totalement fait par un Paris Saint-Germainisé. Aujourd'hui, là, il y a eu tellement de déception en lui que c'est devenu de la résignation. Toutes les déceptions qu'il s'est mangées avec des joueurs qui faisaient leur starlette, qui respectaient pas ses consignes, les médias, etc. Auxquels ils ne comprenaient pas parce qu'ils savaient pas en fait ce que c'était que le Paris Saint-Germain. Ils n'avaient pas connu ça à Dortmund. Comme avait dit
Daniel, le rapport aux joueurs, Grégory. Il faut que tu dises aujourd'hui que bon bah Neymar de toute façon fait ce qu'il veut et c'est pas lui qui lui dira quoi que ce soit. Il faut que tu dises aussi que Kimpembe a été obligé d'aller s'excuser auprès de lui. Il y a quand même un épisode de plus. Il y a aussi un truc très simple, c'est qu'aujourd'hui Mbappé ne sortira plus jamais en cours de match parce que Tuchel c'est terminé. Il ne le sortira plus. Effectivement, comme tu dis, ça fait beaucoup. Et tu te demandes au final qu'est-ce qu'il lui reste vraiment. Parce qu'en plus, il a une idée de nouveau schéma qui a été contesté. Les joueurs l'ont clairement pas accepté. Donc aujourd'hui, qu'est-ce qu'il lui reste,
mais il lui reste
pour diriger le club?
Après, il reste de l'indifférence par rapport aux choses. En fait, quand il raconte en interview avec son petit rire jaune, tu sais, le petit rire jaune qu'il a, oui, Neymar a fait ça, oui, Mbappé, il se plaint, oui, effectivement, on s'est pris des buts. C'est une prise de distance qu'il fait par rapport aux détails.
Ouais, c'est vrai.
Et en fait, comme il ne s'attaque plus aux détails, quand on ne s'attaque pas aux détails, on ne peut plus réussir au niveau.
Non, mais après, il a quand même une gestion humaine. Il a un paraître à avoir en face des médias, parce que sinon, c'est le feu à la moindre des déclarations. Moi, là, sur Tourelle, par exemple, quand apparemment, toi, tu veux son départ immédiat, c'est ce que tu as dit hier. Ouais. Bon, je pense pas que ce soit la meilleure des choses à faire, quand même, entre les deux tours, entre les deux matchs.
Alors, avant de dire ça, parce que ça semble anodin quand tu dis la phrase comme ça, mais arrêtons-nous là-dessus si tu veux bien. Dis-moi quel handicap ça peut avoir de le virer maintenant.
Mais est-ce que tu. Non, moi, je te parle pas du handicap, je te parle peut-être du bienfait d'un nouveau coach. Qu'est-ce que ça apporterait?
Alors, dans ces cas-là, toi, tu me poses une autre question, donc on va faire les deux. Moi, j'estime qu'il faut un déclic parce que de toute façon, il a plus la main sur le vestiaire. Donc, en fait, c'est pas que je pense que forcément ça aura un avantage. C'est que ça n'aura aucun handicap de le virer.
Toi.
Donc, en fait, par inconvénient,
tu veux dire.
Ça n'aura aucun inconvénient.
Je pense que ça ne pourra pas être pire de toute façon que de faire un 2-1 à Dortmund.
En fait, tu ne risques rien à le virer.
Mais si tu risques quelque chose.
Quoi?
Mais tu risques quelque chose auprès de tes joueurs, de les déstabiliser encore plus. Là, on s'est plaint d'un changement tactique qui a déstabilisé les joueurs. Donc, ça veut dire qu'en gros, en trois semaines, entre deux tours de Ligue des Champions, deux matchs, tu vas avoir un nouveau coach qui va dire à des joueurs, maintenant, tout ce que vous avez fait jusqu'à maintenant, ça va changer. Maintenant, on va jouer comme ça. Donc, ça va vous mettre encore plus un bordel. Et même au-delà de ça, il y a eu 2-1 au match aller. T'as pas été bon. À combien d'équipes ça arrivait de ne pas avoir été bonne
le problème,
sur un match
aller ça, que ce soit possible de retourner.
Voilà. Continue
à m'expliquer pourquoi, parce que ça m'intéresse, parce que peut-être je peux changer d'avis sur l'histoire que ça ne peut rien apporter.
Ça peut ne rien apporter. Je veux dire qu'aujourd'hui, tu as des joueurs qui sont quand même, en gros, pour moi, déstabiliser une équipe entre deux matchs.
Mais ils sont déstabilisés,
tu n'es pas éliminé.
Tu prends un mec avec une personnalité un peu forte,
Tu prends Allegri comme ça,
ou Pochettino. Et si Leonardo termine la saison en intérim?
Mais ce sont des mecs qui sont là. Pochettino, ils sont là pour s'inscrire dans un.
Non, mais est-ce que dans ce cas-là, tu mets pas les joueurs, si on le fait, tu mets pas les joueurs face à leurs responsabilités? Les gars, allez-y, montrez-moi que vous pouvez retourner la situation.
Mais attends.
On a viré le coach pour vous, puisque vous voulez plus du coach.
Non, je suis pas. Mais où t'as vu des comportements qui voulaient dire qu'ils voulaient plus du coach?
Bon, tu plaisantes.
Rigoles. Mais ils n'ont pas couru. Je suis d'accord avec toi. D'ailleurs, c'est l'équipe qui a le moins couru des 8 équipes. Aujourd'hui, là où le reproche que je peux faire à Tourelle, c'est de pas avoir des principes de jeu clairs, nets et précis, peu importe ton schéma tactique. Parce que comme je disais à Jérôme juste avant l'émission, tu peux avoir ton 3-4-3, mais avoir toujours la même idée peut-être de défendre en avançant sur plein de choses, peut-être de jeu vertical.
Moi, je vois pas le problème tactique, Damien. Il faut choquer les mecs. Fais le choc maintenant parce que tu vas les mettre face à leurs responsabilités. Tu vas dire, les gars, il est parti maintenant. Bougez-vous le cul, qualifiez-vous.
Moi, alors, l'avis de Jérôme.
Chelsea avait fait ça en 2012. Hein.
L'avis de Jérôme, s'il vous plaît.
Pas entre deux matchs, quand même.
Top.
Bah, pas entre deux. Mais Di Matteo était arrivé. On peut pas dire qu'il ait eu une influence majeure sur l'équipe.
Mais pas entre
ce sont les joueurs. Ce sont les joueurs qui sont allés tout seuls.
Ça va.
Ce sont les joueurs avec grande balle.
Appel de balle de Jérôme Rantaine sur la gauche.
Voilà. Écoute, moi, Damien, je t'écoute. Ça veut pas dire que je suis à 100% d'accord avec Daniel, mais je suis plus dans sa logique sur ce qu'il a dit hier. Déjà, un changement d'entraîneur, avant tout, quand tu changes un entraîneur en cours de saison, c'est pour un choc psychologique. C'est pour amener de la remise en question individuelle qui est, où ils sont incapables de le faire. La preuve, c'est que d'année en année, c'est les mêmes choses qu'on voit.
Et peu importe le coach.
Non, mais
ça, c'est vrai. Ça, c'est vrai. Ça, tu as raison.
Peu importe le coach.
Oui, mais c'est pour ça que je veux tenter un truc.
Écoute, au bout d'un moment, Thiago Silva, c'est pas le moment. Thiago Silva avec un nouveau coach qui va jouer 10 mètres
à l'heure, peut-être le coach qui va arriver, il va le mettre sur le banc. Peut-être que le coach qui va venir, il va le mettre sur le banc. Mais tu mettras Marquinhos, c'est qui va
mais non, on comprend mais rien, les gars. Si vous parlez en même temps,
pas,
on comprend rien.
Alors, c'est parce que tu t'es trompé sur les coachs d'avant qu'il ne faut plus changer. En fait, il faut dire bon, bah, lui, il va aller jusqu'au bout. Pour moi, Emery, c'est une banane. Alors après, il peut s'expliquer la recette, du moins l'échec à Barcelone. En effet, il y a eu un impact tellement
c'est pas,
terrible.
C'est pas une banane.
Mais c'est une banane.
C'est pas une banane quand tu gagnes autant qu'il a gagné.
À Paris,
quoi.
Pour moi, c'est une banane non. Parce que
s'il n'y a pas la catastrophe du camp Nou, il bascule dans le camp des grands entraîneurs. Okay, tu peux pas dire ça.
Mais avec Deschi, peut-être qu'il aurait gagné avec des champions avec le PSG.
Mais c'est pas un si ça.
On était sur Tourelle là.
Je suis désolé. À Paris, ça a été une banane.
Non.
À Tourelle,
parce que ça
il a voulu mettre des choses en place, non. Il a jamais réussi, il est revenu à ce que faisait Laurent Blanc avec beaucoup de possession. Hein, rappelle-toi,
mais contre le Barça, c'est pas le jeu de Blanc qui gagne, qu'est-ce que tu racontes, Jérôme, ça va pas ou quoi?
Mais je te parle pas, je te parle pas du match
si
de Barça.
Si ça passe contre le Barça, la bascule, elle est faite.
Mais c'est
un si qui se joue sur.
C'était une banane. À l'arrivée, il a. C'est un échec.
C'est pas aussi simple que ça.
Tu prends Thomas Tuchel, il est arrivé avec beaucoup de principes de jeu. L'année dernière, on a été sur les matchs de poule. Rappelle-toi les 6 premiers mois quand il est arrivé, on a dit ah ouais, il se passe des choses. À part l'échec là, le premier match à Liverpool, mais derrière il s'est passé des choses et on disait en effet oui voilà. Après coupure, panne de courant.
Il s'est passé des choses, il s'est pas passé grand-chose.
Si, il a changé le style Emery, que tu veuilles ou pas, il a changé le style Emery.
Ah, c'était plus vertical quand même.
Voilà, ça allait un peu plus vers l'avant. Ouais. Et à l'arrivée, ça correspondait aux joueurs. Et comme par hasard. Ça, il y avait des bons résultats, il se passait des choses. Après, il y a eu le mois de janvier, les blessures, les ceci, les cela, toujours la même chose. Le choc émotionnel que disait Guardiola pour gérer les doubles confrontations en huitième de finale, déjà, hein, avant de parler des quarts. Ils n'ont pas réussi, c'est un échec. Pour moi, l'échec était tellement fort qu'il l'a payé tout au long de la fin de saison. On a vu les résultats, lui et son groupe de joueurs, que cette année, il a essayé, il a vraiment été dans le... très dur sur le début de saison. Il a trouvé une formule décembre, c'est ça, quand il a commencé à jouer à 4 attaquants. Et là, il s'est passé de nouveau des choses. Et que, comme par hasard, alors après, moi, je veux bien l'état de forme des ceux, le match à Dortmund, tu nous inventes une tactique, parce que pour moi, il l'invente. Et quand tu joues à 3 derrière, Damien, que tu veuilles ou que tu veuilles pas, c'est un plan tactique qui est bien spécial. On l'a vu hier avec Leipzig. C'est un plan que tu travailles. Ils l'ont jamais travaillé.
Mais Leipzig, ils font que changer. Moi, je regarde tous les matchs de Leipzig, ils font que changer. 4-4-2, 3-4-3, 4-3-3, ils font que changer.
C'est pas le cas du PSG.
Bah, depuis le début, le PSG, ils ont joué en 4-3-3, ils ont joué en 4-4-2. Là, ils jouent en 3-4-3.
Avec ce que fait, non, tu peux pas comparer.
Montréal, ils jouent en 3-4-3.
Non, mais attends. Non, mais ça n'a rien à voir. Là, je te parle de ces derniers temps.
Comme ça.
Quand tu mets une équipe en place, que depuis 2 mois et demi, tu joues avec 4 attaquants, tu joues en 4-4-2, et même quand il fait souffler les mecs, il préfère mettre Sarabia attaquant de pointe plutôt qu'à son poste. Donc ça veut dire qu'il ne veut pas toucher à son dispositif. Et là, comme par hasard, parce qu'il y a des méformes, parce qu'il y a des joueurs qui étaient blessés, il revient
non, à un système. Parce que c'est la Ligue des Champions et parce que tu as un adversaire de calibre supérieur.
Exactement. Les gars. Et là, pour finir, quand je te dis que quant à l'effectif du Paris Saint-Germain aujourd'hui. Après, tu peux perdre à Dortmund, c'est pas une tare en soi de perdre à Dortmund, c'est un match de Ligue des Champions à l'extérieur pour en avoir joué à l'extérieur, c'est compliqué. T'as beau avoir Neymar, Mbappé, ceci, cela, c'est compliqué. Ça a été compliqué. Mais perdre de la sorte.
Non, c'est compliqué, machin. Quand tu vois le nombre d'observateurs qui en France disaient qu'ils allaient gagner facile là-bas, avec bordel.
Non, mais
ça reste une Ligue des Champions.
Moi, où je lui en veux, c'est que quand tu joues Dortmund et qui était le grand Paris Saint-Germain, que tous les clubs en Europe ne voulaient pas tirer dans le chapeau numéro 1, ok ? Dortmund les a tirés. Ils se méfiaient, hein. Ils avaient peur, Dortmund. Ils ont eu peur. Bah, ouais, on l'a vu. Et lui,
mais ils ont fait le match de leur vie sur ce match-là.
Mais bien sûr qu'ils font le match de leur vie. Et lui, en fait, il a transformé cette peur de Dortmund en lui, en ayant sa, cette peur-là. Parce qu'en s'adaptant au jeu de Dortmund, alors que normalement, la plus petite équipe, l'outsider, c'est à elle de s'adapter au Paris Saint-Germain.
Je suis pas d'accord.
Et
bah
là, non. Bah il s'est adapté. Et encore une fois, et tu le prends dans le nez. Tu fais un match de merde. À l'arrivée, Daniel, il a raison.
Un entraîneur, il s'adapte
mais,
en fonction des faiblesses qu'il
a. Mais pas quand t'as l'effectif.
T'étais le premier à dire quand t'as vu Kurzawa sur la pelouse, à dire pas, attention, Kurzawa, ça va passer de son côté.
Et là, on a dit quoi? Pourquoi il l'a mis? Mais si c'était qu'à moi, j'aurais pas mis Kurzawa.
Bah,
après, moi, je suis pas entraîneur du Paris Saint-Germain.
C'est facile, tu mets qui?
Mais Kurzawa, à l'arrivée,
c'était peut-être le meilleur du match.
C'est ce qui est grave.
Franchement, c'est grave.
Ce que je veux dire, c'est que quand Daniel dit il faut une cassure, c'est un problème émotionnel qu'ils ont eu encore une fois. Et que là, en effet,
c'est pas tactique.
Le seul moyen qu'a le Paris Saint-Germain aujourd'hui de réagir en trois semaines, peut-être en effet, c'est ce choc psychologique en disant l'entraîneur, écoute, ça fait plusieurs fois qu'on a des doutes. Là, c'est un gros doute parce qu'il s'est déchiré pour moi, même s'il n'a pas de regrets, c'est encore pire ce qu'il dit après le match. C'est qu'il s'est déchiré, et ben là, tu payes. Voilà, tu payes et tu mets n'importe qui et tu verras que le n'importe qui, il arrivera à faire prendre conscience à Neymar, à Mbappé, aux autres, que là, ils vont faire le match de leur vie contre Dortmund au retour pour qualifier le Paris Saint-Germain.
Un dernier argument pour compléter ce que dit Jérôme rapport à l'émotion. En fait, oui, tu as raison. Le problème, il est plus émotionnel que tactique, certes. Mais là où Jérôme a raison, c'est que en proposant cette tactique-là, en fait, il envoie un message aux joueurs que eux, émotionnellement, n'ont pas été capables d'accepter. Parce que pour eux, ce changement tactique qui ne devrait pas être un problème, ça ne devrait pas être un problème.
Là, on est OK.
Ça ne devrait pas être un problème.
On est d'accord.
Mais eux ont vécu ça comme « Waouh, qu'est-ce qui se passe ? Pourquoi ils changent maintenant ?» Et ils ne sont pas capables de le supporter.
Mais c'est gênant quand même.
Mais bien sûr que c'est gênant.
Bah voilà, c'est gênant.
C'est le drame de ce club.
Hier, tu regardes un 3-4-3 et tu regardes un Padou qui joue dans l'axe derrière, un gamin qui a 19-20 ans.
Mais ça ne devrait pas poser de problème à un joueur professionnel, le changement de tactique.
Exactement.
Il faut juste avoir un peu préparé quand même avant.
Tu joues avec Thiago Silva, 35 ans, et bah ouais, le mec, il est obligé de reculer.
Et bah Thiago Silva, tu peux pas. Quand tu lui envoies un message pareil, à lui, c'est waouh !
Et j'en panique. Mais moi, je pense que c'est pas Thomas Tuchel qui leur dit d'allonger des ballons à tout va.
Ah bon?
Ah non, moi je pense pas. Bah non, Momo Boissy, t'es sur le côté.
Tu dis, tu penses pas.
C'est vrai qu'on sait pas, Jérôme. Pourquoi les mecs d'un coup ils se mettent à balancer des ballons comme ça?
T'es sur
je crois que Tuchel leur a demandé, je suis pas sûr.
T'es sur le terrain, ils boycottent les côtés. Ils boycottent Meunier à chaque fois.
Franchement, Meunier était tout seul, il donnait pas un ballon.
Il donne pas un ballon. Alors, ils vont dans l'axe.
Mais ça, c'est parce qu'il savait pas qu'il était sur le terrain.
Ils se prennent que des murs. Et ils continuent à se
prendre. Mais il
avait su, Laurent. Mais vous me faites rire. Quand tu changes de tactique comme ça et le 3 derrière, le 3-4-3 ou le 3-5-2, tout ce que vous voulez, c'est quand même quelque chose complètement différent que quand tu joues à 4
en
4-3.
Oui, mais ils pourraient l'accepter, ça s'est déjà vu des équipes.
C'est qu'il y a des circuits préférentiels dans ce schéma.
Mais bien sûr.
Et moi, c'est ce que je disais, c'est que les habitudes de Verratti, de Gueye au milieu de terrain, qui sont eux, les plaques tournantes en général, le ballon ressort sur eux, c'est eux qui alimentent. Ouais. Là, ils sont pas habitués
parce que
d'habitude ils sont habitués à avoir Neymar, Mbappé qui viennent décrocher ou à l'intérieur comme Di Maria demandé. Et là où je te dis que pour moi c'est aussi les consignes de Thomas Tuchel, c'est que quand tu vois Di Maria, Mbappé et Neymar aussi proches dans l'axe, jamais écartés. Ne dites pas que c'est pas Thomas Tuchel qui leur a demandé ça.
Top. Voilà, s'il vous plaît. Ouais. On va finir avec Greg qui a écouté cette discussion virile. Ça c'est pour le rugby.
Ouais. Ça c'était juste viril.
Grégory, alors du coup tu vas conclure. Qu'est-ce que tu penses de tout ça là? Et est-ce que tu es d'accord avec les uns et les autres?
Moi, je suis plutôt sur la ligne Daniel Jérôme. En fait, moi, c'est un truc que j'aimerais aussi rajouter. Quand on change de compo juste avant un match, c'est soit qu'on se sent très fort et qu'on veut encore plus déstabiliser l'adversaire, soit qu'on se sent hyper dos au mur et qu'en fait, on n'a plus rien à perdre.
C'est pas le cas pour Paris. Tous les grands entraîneurs s'adaptent tôt ou tard. Louis Van Gaal, dans une interview de France Foot, il dit « Moi, là où j'étais le meilleur, c'est peut-être à la fin où j'ai arrêté d'être arrogant. Okay. Et au bout d'un moment, je me suis dit « Bah tiens, j'ai peut-être m'adapter à l'adversaire. »
Parle-moi des entraîneurs qui gagnent aujourd'hui, Damien.
Louis Van Gaal, c'est peut-être un grand entraîneur, peut-être.
Qui gagne en ce moment. Louis Van Gaal, il est cramé. Ça fait un bout de temps qu'il a pu gagner.
Guardiola, c'est l'un des premiers à s'adapter.
Merci, Grégory, en tout cas. Salut.
Il prend 3-3 derrière.
En fonction fonction de son équipe, pas en fonction de l'adversaire.
Top pause, les gars.
Mais attends,
je reçois un message. De moi, Madou.
Il y a Klopp, Jérôme, qui s'adapte. Klopp. Non, mais Klopp, il va
Quand je dis stop, faut faire stop.
Tu peux t'adapter. Allez,
quand je dis stop,
c'est parti des entraîneurs qui s'adaptent.
Balancez-moi la pub et on continue le débat juste ensuite. Je reçois plein de messages que je vais vous faire partager, notamment un Mouhamadou qui me dit mais il est bon, Damien Perrinel. Il s'affirme de plus en plus. Bravo.
Surtout quand il dit des conneries à côté de moi, là.
Allez, à tout de suite.
RMC. L'Afterfoot. Gilbert Bribois.
Jusqu'à minuit, l'after est là avec Daniel Riolo, Damien Perrinel, Jérôme Rotten. Ce soir, tout à l'heure, après 22h, on changera complètement de débat pour parler de la gouvernance du football français. Faut-il revoir la façon de gouverner? Faut-il changer de paradigme, comme dirait Jonathan McCarthy? Ce sera après 22h avec un économiste qui a bossé sur le sujet. Vous allez voir, ça va être très intéressant. Il sera là tout à l'heure avec nous. Il s'appelle Jean-Pascal Gaillan. Et puis, l'Europa League, les matchs en cours, on fait le point. Arnaud Valadon.
Dans 3 minutes, ce sera la mi-temps sur ces 8 pelouses. Leverkusen a ouvert le score face à Porto. D'ailleurs, c'est assez cocasse puisque le VAR, il y a le VAR maintenant en Europa League, c'était pas le cas lors des phases de poule. Il a d'abord annulé le but d'Alario pour une position de hors-jeu. On a de nouveau contacté l'arbitre de la rencontre qui finalement a accordé le but. Donc Leverkusen mène bien 1-0 sur sa pelouse face à Porto. La surprise, c'est l'ASK, les Autrichiens de l'ASK qui mènent 1-0 sur la pelouse d'Alkmaar. Et l'entraîneur de l'ASK n'est autre que Valérien Ismaël.
Depuis le temps que je vous en parle d'Ismaël, l'ASK.
Il le veut à Strasbourg.
Mais comment tu craches sur Titi Loret comme ça?
Arrête. Je te dis pas ça.
Je
te parlais d'Ismaël, tu me dis que je crache sur Titi Loret. Il est quand même incroyable ce type. Si je te parle de Tourette, tu vas me dire que.
Avec Daniel, il faut qu'il vienne à Strasbourg.
Alors je vais t'expliquer un truc. Ismaël, j'aimerais bien qu'il finisse un jour à Strasbourg.
Pourquoi? J'avais pas compris. Je croyais qu'on me disait dans les prochaines semaines.
C'est pour. Il n'est pas encore directeur sportif, Gilbert.
Il a un budget qui n'est même pas le budget du plus petit club de Ligue 1. Il est leader du championnat d'Autriche. Il est là où aucun club français n'est, c'est-à-dire en 16e de finale de l'Europa League. Non, il est leader.
Ah, il est leader.
Il est leader devant Salzbourg. Et
ça joue bien, en plus.
Voilà, et ça joue bien. Et il a failli se qualifier pour la phase de poule de Ligue des Champions. Il a perdu en barrage.
C'est vrai. Non, mais il a fait du bon boulot, très bien.
Et à Hanovre, c'est moins bien passé.
Que tu le veuilles.
C'est très mal passé.
Ouais, mais il était jeune entraîneur.
Et à Nuremberg aussi, il est très mal passé.
Non, mais et pourquoi en Allemagne non et en Autriche?
Bah écoute, je sais pas, peut-être qu'il était comme dit Damien un peu trop jeune, j'en sais rien. Et...
Non, mais bon, que tu le veuilles l'année prochaine sur le banc de Strasbourg.
T'es sûr qu'il aura envie de revenir en France? Parce que quand tu passes en Allemagne ou en Autriche, revenir en France, je vois pas l'intérêt, quoi.
Non, bah oui, je crois qu'il est bien.
Gagner la vie avec les joueurs français et leur mentalité, moi je resterai en Autriche ou en Allemagne.
Apparemment, de sources sûres, il aimerait bien, s'il y a une bonne proposition, mais sauf que pour lui, il est grillé en France. Du moins, on n'en parle pas assez.
Pourquoi il est grillé?
C'est lui hein, qui le dit. Hein.
Ouais, je vois pourquoi il serait grillé. J'ai entendu en France.
Qu'est-ce qui peut le motiver de revenir en Ligue 1 quand il voit les galères et les trompettes qu'il y a
entre le championnat autrichien et la Ligue 1, Daniel, arrête un peu
peut-être
deux secondes.
Il y a des conditions de travail.
À part niveau de salaire. À part s'il prend plus d'oseille, qu'est-ce qui peut l'intéresser?
C'est le New Yorkais qui me raconte ça. Mais attends, me dis pas que c'est mieux d'entrer.
On va en parler après, justement. Les modèles financiers.
Mais arrête, je dis pas que c'est mieux d'entraîner en Autriche que d'entraîner en Ligue 1, les gars. Arrêtez un peu deux secondes.
C'est quoi le problème?
Bon, et si vous parlez tous en même temps, on ne comprend rien. Je le répète.
C'est quoi le problème? Sauf s'il lui donne plus d'oseille,
c'est quoi le truc?
Ça va être génial.
Non, pas d'autre but. La Roma qui mène toujours 1-0 face à Gaines sur sa pelouse et 2-0-0. Olympiakos Arsenal et Wolfsburg Malmö.
À tout à l'heure. Alors écoutez un petit peu les autres coachs de Ligue 1 qui parlent de Tourelle et de ce qu'il a fait à Dortmund. On va entendre dans l'ordre Moreno, Gourcuff et Galtier qui évoquent Tourelle. C'est intéressant, vous allez voir.
Entraîner PSG non est facile, c'est très difficile. Tout le monde atteint la Champions League. Bah, quand tu vas jouer contre Dortmund et ce type d'équipe, tu peux avoir cette situation comme je vous. Pour moi, Tuchel, c'est un grand entraîneur. Entraîner une équipe comme PSG est très difficile. La gente peut penser, non, c'est facile, entraîner Barça, PSG, mais c'est extrêmement difficile. Il va faire son travail. Je pense que c'est une situation que c'est difficile. Je veux voir encore les matchs et un retour à Paris.
La difficulté, c'est qu'ils abordent cette compétition qui commence maintenant pour eux vraiment là, pas dans les situations les plus favorables. Quoi. C'est-à-dire qu'on a vu un PSG qui était quand même plus fringant. C'est difficile. Et que s'il n'y a pas de qualification, bah, évidemment, ça sera difficile pour lui. Mais enfin, il le sait.
Il fait un parcours exceptionnel depuis je sais pas combien de matchs. Il enchaîne tous les trois jours. Et Paris est battu à Dortmund. Est-ce qu'il est responsable? Les entraîneurs, on est tous responsables. Parce que Paris perd 2-1 à Dortmund. Et que Dortmund a été supérieur, c'est un cataclysme. maintenant. Je suis persuadé que Paris aura sûrement un autre visage au match retour et Paris a encore toutes ses chances de se qualifier.
Voilà, donc l'avis des coachs aujourd'hui qu'on rencontre par
Rien de dingue hein, dans ce qu'on a entendu. Oui, évidemment qu'ils sont encore en course et qu'ils peuvent se qualifier. Oui, on y croit tous. Hein.
Ils vont dire, Tourelle, c'est une merde.
Il dit qu'il comprend pas, lui, il a son 4-4-2, et peu importe comment il va, contre qui il va jouer de cette manière-là.
Moi, je pense que il a raison, parce qu'il a vu comment Paris dominait le championnat, même contre des équipes plus faibles, comment ils arrivaient à être forts en 4-4-2. Après, Christophe Galtier, moi, je l'adore, ce qui fait le travail, mais bon, franchement, son discours-là, ouais, ils ont le droit de perdre. Bien sûr qu'ils ont, on a jamais dit qu'ils n'avaient pas le droit de perdre. C'est de perdre
en fait, c'est la façon dont ils ont perdu.
C'est
le visage. Le problème, c'est que on revoyait des choses qu'on avait déjà vues.
Non, mais c'est le comportement.
Encore une fois, quand tout le monde dit, mais évidemment qu'on ne peut que y croire, 2-1 en Coupe d'Europe, c'est 50-50. Tout est possible. Tu peux imaginer que le PSG joue mieux. Tu peux imaginer que Dortmund n'a gagné que 2-1 en faisant un match énormissime. Le problème, c'est que un visage positif du PSG dans un match de Ligue des Champions avec pression au retour, on n'a pas de référence.
Ah non, loin de là.
Et comme on n'a que des références négatives.
Le Real, on l'a eu, ça n'a pas été terrible. C'est ce que je dis, ça n'a pas été bon le match retour. Ils se sont chiés dessus.
On n'a pas de référence positive.
Négative, ouais, voilà.
Alors, on n'a que des références négatives. Donc, c'est pour ça que même s'il y avait eu un partout, tu vois, en fait, on ne sait pas. Il n'y a pas de rationalité dans l'espoir et dans la croyance qu'ils vont retourner le match. Pour n'importe quel club, on dirait oui, mais pour le PSG, on a vu les références, ils sont capables de gagner 3-2, tu vois. Alors, ça passera pas.
J'aimerais qu'on accueille Youssef,
c'est ça l'histoire,
s'il vous plaît.
Avec un but, avec le deuxième but de Dortmund à la 90e.
Youssef, bonsoir.
Oui, bonsoir l'after.
Salut Youssef.
Salut Youssef. T'étais à Dortmund, hein?
J'étais à Dortmund.
T'imagines, il mène 3-1.
Il y a Youssef qui s'exprime là.
Ah pardon Youssef.
Pardon, salut Daniel.
Donc tu étais à Dortmund.
J'étais à Dortmund, j'ai assisté au match juste en dessous de l'équipe de RMC Télé. D'ailleurs, j'ai vu Duga et Willy et toute l'équipe. Moi je voulais dire que, et j'ai revu le match, très important, j'ai revu le match après sur ma tablette. Très important, je suis tout à fait d'accord avec Daniel. D'ailleurs, j'ai mis l'idée sur un forum que je pense Daniel connaît, qui est un forum qui parle de football et de poker, enfin plus de poker à la base, mais aussi de football. Je suis 100% d'accord avec lui sur l'idée qu'il faut créer un électrochoc, qu'il faut laisser ce groupe, comme je l'ai dit sur mon forum, en autogestion. La seule différence que j'ai avec Daniel, c'est que je pense que c'est une très mauvaise idée de mettre Leonardo dans l'arène. Ça s'est mal passé en Italie pour lui quand il l'a fait. Pour moi, je laisserai ce groupe en quasi-autogestion, en laissant Papus publiquement en coach. Comme j'ai dit sur mon forum, contre ceux qui n'étaient pas d'accord avec moi, aucun supporter du PSG ne va en vouloir à Papus Camara si on se fait taper par Dortmund, battre en finale de Coupe de France.
Je m'arrête juste sur ton idée d'autogestion.
Le problème, c'est qu'il faut qu'il y ait un mec qui choisisse le 11. Et le problème le 11 avec les mecs qu'il y a au PSG, c'est compliqué.
Qu'est-ce qu'on a comme exemple célèbre d'autogestion? Attends, Youssef. Vous allez me dire l'équipe de France 2006, autogestion? Enfin, il y avait Zidane, quoi.
Attends, excuse-moi. Encore une fois, je reprends cet exemple. Le Chelsea de 2012. Ça ressemble à ça. Di Matteo vient, mais franchement, Drogba, Lampard, Terry sont vraiment les tauliers. C'est eux. C'est eux qui vont la chercher.
Parce que là, ça va être qui les tauliers?
C'est assez fou ce qu'ils font, aussi bien contre le Bayern. Ouais. Leur campagne est un petit peu dingue. Mais ils l'ont fait un petit peu de cette façon. Di Matteo était un peu un accompagnateur.
Des mecs surtout qui étaient investis dans la vie.
Mais aujourd'hui,
tu
as passé à Paris.
Aujourd'hui, tu n'as que des esprits individualistes qui pensent à leur carrière.
C'est vrai. L'exemple s'arrête à. Mon exemple s'arrête à ça.
Les carrières ne sont pas les mêmes.
Au bout d'un moment, si tu dois changer, s'il vous plaît, prenez un coach à poigne. Tu vois, des coronesses, des vrais.
Le problème de la poigne, c'est que le mec.
Et qui va leur dire, et pas des mecs, là, qui a soit gominé, soit ceci, cela.
Viens,
on va faire un câlin, ça va. Au bout d'un moment, il faut.
Si le président est pas costaud, s'il n'y a pas quelqu'un au-dessus, c'est compliqué pour le coach.
Mais tu l'as dit sur les investisseurs, c'est pas la dictature que tu perds Neymar, tu perds Mbappé, tu perds encore plus tout le monde. Moi, je t'annonce.
Mais comment?
C'est sûr.
Mais attends.
parce que c'est pas le management. Damien, c'est pas le management d'il y a 10 ans.
Aujourd'hui, il faut de la calinothérapie aujourd'hui.
Mais t'es obligé.
Mais vos conneries, calinothérapie. Mais quand tu, calinothérapie, quand tu fais encore sur certains, ce qu'ils ont montré sur le terrain, à perdre le ballon, à regarder leur pompe, tu crois qu'il faut la calinothérapie? Tu crois qu'au d'un moment, il faut leur dire, oui, c'est bien mon coco, allez, continue. Non, non. Au d'un moment, il faut un mec qui arrive dans le club. Attention, s'il te plaît. Il faut un mec qui arrive dans le club et Leonardo peut le faire.
S'il te plaît.
Non mais le mec qui transpire le club, qui a le sang du Paris Saint-Germain dans le club. Au bout d'un moment, tu mets un mec comme ça, mais tu vas voir les mecs. T'as beau me dire Neymar, ceci, oh,
mais t'as
tu
eu Vahid comme coach.
Mais Vahid, ça n'a rien à voir.
Et le mec qui était là,
je sais pas quel sang il avait dans les veines. Je sais pas.
T'étais premier à dire que ça te plaisait pas.
Mais n'importe quoi.
On a eu la chance d'avoir un coach là il y a 2 heures.
Laissez parler Damien.
On a eu la chance d'avoir un coach il y a 2 heures. Ici, Massimo Allegri, quand même. C'est-à-dire que le gars, référence, Daniel, on est d'accord quand même, Massimo Allegri.
Oui.
Je suis pas fan de ses
approches.
De ce qu'il joue. Mais il va te dire quoi?
Il va te dire, en fait,
c'est l'aspect humain qui aujourd'hui doit primer surtout. L'aspect tactique, il est secondaire.
L'aspect humain, ça veut dire quoi, Damien?
Mais c'est mettre ton joueur dans les meilleures conditions.
Et alors, donc, quand il fait de la merde, il faut lui dire, oh, c'est bien, mon coco.
Mais ça dépend des profils de tes joueurs. Tu parles pas de la même manière.
Vous oubliez un truc important dans ce que tu dis. Oui, effectivement, aujourd'hui, tous les entraîneurs disent que 70 à 80% du métier, c'est de la gestion humaine et que 20% c'est de la tactique. Sauf que, attention, s'il faut dire ça, et je suis plutôt d'accord avec toi, ça veut dire que c'est un peu ce que dit Klopp dans ses interviews, c'est qu'il a choisi son groupe. Et il l'a choisi en fonction des aspects humains.
Complètement.
Donc, faire l'aspect humain avec ce groupe plein d'individualistes qui, un, pense à se barrer, l'autre pense à sa tronche, un veut pas donner le ballon à un tel, l'autre se chie dessus dès qu'il y a un gros match, là, tu sais plus quoi faire. Et là, t'en es à te demander, comme dit Jérôme, s'il faut pas qu'il prenne un coup de fouet dans la gueule.
Mais
aujourd'hui, dans un vestiaire normalement constitué, oui, tu as raison. Sauf que, il faut pas faire, dans ces cas-là, il faut pas constituer le groupe parisien comme il a été constitué, avec des vieux qui sont là depuis 10 ans, dont au final, on peut douter au niveau des réelles capacités, des stars qui sont arrivés après, mais qui se considèrent plus importantes que le club, et des mecs qu'on a peut-être un petit peu surcotés. C'est le dosage de ce vestiaire qui est peut-être pas le bon. Ce qui fait qu'à l'arrivée, tu ne sais pas vraiment quel genre de coach il faut avoir.
Exactement.
Donc on sait pas bien finalement. Est-ce qu'il faut un coach qui va arriver, qui va être un peu adjudant, ou est-ce qu'il faut un coach comme est la plus grande tendance actuelle, à savoir un gestionnaire d'humain.
Et avoir la personnalité, c'est pas forcément être un dictateur, tu vois, comme tu m'as cité Vahid ou quoi. Moi, c'est pas ce genre de coach, ce que je te disais.
C'est un mec à poigne, là. Regarde un Mourinho aujourd'hui, ça marche plus, c'est mode de management.
Mais Mourinho, il est même plus à poigne du tout, Mourinho. Hier, ça tourne pas. Et son équipe prend le bouillon. Il applaudit les mecs, donc avec un grand sourire. Donc je peux te dire qu'il est plus du tout comme il était. Hein. Au contraire, il essaye de changer.
Mais Mourinho, il n'était pas comme ça. Il n'était pas vraiment à poigne.
Mais moi, je te dis,
Mourinho, sa grande particularité, ça a été la gestion humaine. Ça a été le rapport avec lui. Ça a été de faire en sorte que les mecs soient prêts à crever sur lui sur le terrain. C'était ça, Mourinho, dans les années 2000.
Comme entraîneur,
c'est après qu'on a dit de lui que c'était devenu un entraîneur à poigne qui serrait les gars. Ça, c'est venu justement dans le moment où ça n'allait plus bien pour lui.
Mais moi, je vais te dire, entraîneur à poigne, tu penses que Didier Deschamps, tu vois l'aspect Didier Deschamps, tu crois que c'est un entraîneur à poigne ou pas? Je te pose la question.
Non, je pense pas.
Pourtant, Didier,
l'un et l'autre. Il est d'abord dans le gestionnaire et il montre derrière qu'il ne fera pas de cadeau.
Mais c'est pas.
Oui, mais
c'est
bien sûr.
Il donne un cadre. Celui qui sort du cadre.
C'est fini.
C'est Calino.
Jérôme, détends-toi. On va te couper ton micro.
Oui, mais Deschamps, quand il construit l'équipe, qu'est-ce qu'il fait? Jérôme, c'est toi qui le dis.
Je suis désolé.
Jérôme, c'est ce que tu dis. Quand il construit son groupe.
Vos micros sont coupés. Tiens, vous vouliez du Galtier, je vous en remets. Galtier qui parle de Kimpembe, c'est parti.
Pour envoyer un message de soutien à Thomas. Je suis un peu étonné que très peu de gens reprennent ce qui s'est passé hier. Un membre de la famille d'un joueur s'est permis d'insulter publiquement Thomas. Je trouve ça très grave. Je me positionne en tant qu'entraîneur, car je sais l'incidence que peut avoir de tels propos envers l'homme, l'entraîneur, le garçon, le joueur et le groupe. Je dirais tout simplement que certains n'auraient sûrement plus utilisé leur cerveau que leur téléphone.
Voilà. Mais c'est intéressant parce qu'il dit que ça peut avoir des conséquences, hein, ces histoires qui peuvent paraître anodines.
Non, mais pour finir sur Deschamps.
Oui,
Deschamps,
sans vous couper la parole, parce que sinon on ne comprend rien. Hein, je le répète une nouvelle fois.
Ce que tu dis, c'est vrai. Sauf que Deschamps, tu le sais, toi-même, le soin qu'il porte à la constitution de son groupe. Oui. Pour justement éviter le plus possible de devoir être à poigne ou de devoir sanctionner. Il fait tout en amont. Ouais. Sa grande intelligence à Deschamps, c'est ça. Même quand il gère le club, toi, tu l'as connu. Il a 3-4 mecs qui sont un petit peu ses relais. Ouais. Et...
Rappelle-toi Simonet à l'époque,
donc,
par exemple.
Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que Tourelle n'a pas pu faire ça. Et donc,
tu comprends
sa calinothérapie. Moi, excuse-moi.
Je pense qu'elle était surjouée.
Ce sera le mot de la fin,
Jean. Entraîneur au Paris Saint-Germain, et ça manque depuis un bon bout de temps. D'accord. Ancelotti l'avait. Laurent Blanc l'a eu. Il l'a perdu en cours.
Blanc, c'était de l'autogestion.
Oui, mais il l'a perdu. Mais avec Gasset. Blanc-Gasset l'avait.
Mais Blanc, c'était Zlatan de boss.
Non, mais attends.
Top, c'est fini. On a une minute de retard déjà. C'est top, ça, c'est terminé. Il faut respecter les horaires. Et en plus, que vous parlez tous les uns sur les autres, les trois quarts des gens n'y comprennent rien. Donc, disciplinez-vous. Soyez des grands garçons. Sinon, je vais appeler un entraîneur à poigne. Peut-être plus de poigne que moi. Je sais pas. Je vais faire venir quelqu'un. Nicolas Jamin, par exemple. Dans quelques instants, l'arbitrage et la gouvernance du football français. C'est au programme de l'After dans la deuxième heure. À tout de suite.